Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Dans le mag de la matinale, Sonia, vous recevez un ancien journaliste à Libération qui s'est retrouvé dépositaire des manuscrits volés de Louis-Ferdinand Céline. Il a révélé cet été qui les lui a donnés. Voici sa première interview.
Jean-Pierre Thibaudat est mon invité. À la Libération, Céline, écrivain collaborateur, s'enfuit en Allemagne. Son appartement passe aux mains des résistants. Disparaissent alors pléthore de manuscrits. Céline, écrivain dit dépossédé, spolié, dépouillé. Que sont devenus ces milliers de feuillets volés? Le mystère a persisté 70 années, jusqu'à ce qu'un journaliste éminent critique dramatique révèle qu'il les détenait en sa possession. Déflagration mondiale, car Céline est traduit dans tous les pays. On veut savoir comment ce trésor littéraire est-il arrivé jusqu'à lui. Jusqu'à cet été, Jean-Pierre Thibaudat s'est tu, invoquant le secret des sources. Et puis, au mois d'août, il a tout raconté sur son blog. Le voici, de vive voix, pour la première fois.
France Inter, le mag de la matinale, hashtag magma.
Depuis que nous sommes rentrés ce matin par la porte d'Orléans, c'était un grand spectacle de tous les côtés.
Nous sommes tellement contents, very happy.
Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose.
Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les alliés.
La patrie,
this is a PWD dispatch for BBC European Service and ABSE. Emlyn Edding speaking to you from Paris.
Bonjour Jean-Pierre Thibaudat.
Bonjour.
Soyez le bienvenu au micro de France Inter. Vous avez roulé toute la nuit, vous arrivez du Berry. Je rappelle que vous êtes une éminente ancienne plume de Libération, qu'aujourd'hui on peut vous lire sur votre blog, hébergé par Mediapart. Combien d'années avez-vous passé en tête-à-tête avec ces manuscrits, Jean-Pierre Thibaudat ?
Des dizaines d'années.
Des dizaines d'années, mais plus précisément.
À peu près depuis le début des années 80, vers 82-83, par là.
40 ans de noces secrètes,
oui.
avec Céline. Combien d'années donc à garder ce secret ? Lorsqu'un ami vous appelle pour vous dire ce qu'il va vous remettre, vous n'y croyez pas ?
Non, il me parle, il me dit pas qu'il va me remettre, il me parle de manuscrits de Céline. C'est normal, j'ai du mal à y croire. Me dis, c'est un ami que j'aime beaucoup, mais tout ami peut être un peu farfelu parfois. Bon, et donc je lui dis, voyons ces personnes dont tu parles, qui sont ses amis à lui que je connaissais pas moi du tout.
C'est ça.
Voilà, et ça s'est passé comme ça.
S'est passé comme ça. Vous vous retrouvez face à une caisse qui déborde d'archives. À quoi elle ressemble cette caisse ?
Elle ressemble à une caisse en bois, vous voyez, toute simple, un peu comme des caisses de déménagement, je pense. Et puis dedans, effectivement, il y a des tas de choses.
Il y a des
tas de choses. On ne sait pas trop quoi. Les personnes qui me donnent ça, elles-mêmes n'ont pas cherché à les fouiller, à regarder ce qu'il y a. Ils ont compris que c'était des archives de Céline, c'est tout.
Voilà. Alors, il y a des choses écrites à la main, ce qu'on appelle des manuscrits, mais il y a aussi des factures, il y a aussi toutes sortes de documents administratifs. C'est une sorte de fatras qu'il faut trier.
Mais c'est un exemple. Peut-être unique, en tout cas rare, de l'état d'un appartement quand quelqu'un le quitte précipitamment. En fait, il part, Céline. Il fuit en Allemagne, il fuit après au Danemark.
Il rejoint le maréchal Pétain à Sigmaringen.
Oui, il a peur d'être assassiné, arrêté, condamné, ce qu'il sera d'ailleurs par la suite. Bon, donc il part sans rien. Il part avec des pièces d'or. Mais il part avec un manuscrit qui est le Guignol's bande de numéro 2 qui sera publié plus tard puisque le 1 vient de paraître. Il donne un ou deux manuscrits à ce fidèle secrétaire et puis il laisse tout.
Ouais.
Donc c'est exceptionnel quand les personnes qui viennent dans l'appartement, en fait, l'appartement est réquisitionné après le départ de Céline, logiquement, par la résistance. Et c'est un des grands résistants de Paris, Yvon Moranda, qui occupe cet appartement. Et donc, il y a des meubles, Il y a des objets, il y a de tout. Et puis, il y a tout un tas de documents.
Je voudrais qu'on s'arrête juste un instant. Yvon Moranda, vous dites un grand résistant. Oui, un grand résistant. C'est un compagnon de la libération. Il y en a eu près de 1000 des compagnons de la libération. Le dernier s'est éteint récemment. Mmh. C'est-à-dire que, vraiment, c'était les compagnons du général de Gaulle, des hommes de premier plan.
Oui, tout à fait. C'était des gens exceptionnels. Par la suite, il a été président des Charbonnages de France. Il a été ministre sous le dernier gouvernement de Gaulle et tout ça. Donc, c'est vraiment.
On a sa voix. On va l'écouter, Yvon Moranda.
Je crois profondément à la fidélité, fidélité aux idées, fidélité aux hommes. Et c'est pourquoi j'ai dit ma fidélité à ces trois hommes. À leur pensée, le grand humanisme de l'homme de gauche qui était Léon Blum, le grand patriote qui était Bernanos, un peu nationaliste dans certains cas, et puis enfin le grand homme tout court qui est pour moi le général de Gaulle.
Et on va comprendre pourquoi les convictions et les valeurs morales de Yvon Moranda sont clés dans cette histoire. Yvon Moranda se retrouve donc à Montmartre, occupant l'appartement de Céline.
Voilà, donc il y a beaucoup de choses dedans. Il ne va pas vivre dans Céline, donc il va mettre les meubles au garde-meubles, logiquement. Et puis tous les documents, c'est quand même un intellectuel, c'est des documents, c'est précieux. Il sait très bien, bon, il ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Il rassemble tout, des photos, des lettres, des documents comptables et tout. Tout ce qu'il y a, il le rassemble, il met ça dans une caisse, il ferme la caisse. Et alors, ce qu'on ne sait pas trop, parce que là, c'est si la caisse va au garde-meuble ou si elle ne va pas au garde-meuble. Certains croient qu'elle est au garde-meuble, d'autres pas, dans la famille Moranda. Voilà. En tout cas, la caisse est là. Et donc, tous les documents que Céline a laissés, ils sont préservés.
Alors que avec les pinces à linge avec lesquelles l'écrivain
partout, pas partout. Parfois il y a des trombones. Ah. Et quand j'ai retrouvé, les trombones étaient évidemment extrêmement rouillés, donc je les ai enlevés. Mais les pinces à linge étaient intactes, c'est incroyable. Il y a tout le manuscrit de la légende du roi Krogol, de la volonté du roi Krogol, c'est avec des pinces à linge. Et je les ai restitués aux héritiers tels que je les ai reçus. J'ai gardé les pinces à linge. Quand j'ai voulu décrypter les choses, j'ai enlevé les pinces à linge, mais après je les ai remises avec beaucoup de respect pour ça. En plus, c'est une telle légende, les pinces à linge de Céline, que ça fait... C'est trop beau de voir ça.
Céline a dit et a redit à quel point il avait été dépouillé, volé, dépossédé, maltraité. C'est même le début, par exemple, d'un château l'autre, où il fait la liste de tout ce qui a disparu quand il est revenu en France, et de tout ce que les résistants, qu'il appelle lui des épurateurs, lui avaient volé. On l'écoute, Céline, parce que c'est quelque chose qu'il va marteler.
Je me suis sauvé, esquivé, parce que je ne voulais pas être assassiné, ni moi, ni ma femme. On m'a tout volé. On m'a tout pris, oui. On m'a foutu en prison là-bas au Danemark. J'étais, je crois, écrivain et médecin. Je suis sorti de cette petite situation pour me jeter dans une effroyable aventure où je n'ai reçu que des coups et des horreurs.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine.
Yvon Moranda, Jean-Pierre Thibaudat, était-il donc un voleur? Était-il donc un salopeur?
Non, Céline vient de dire qu'il était un écrivain et un médecin. C'est totalement vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il était un collaborateur et un antisémite. Et ses écrits, ses gestes l'ont prouvé largement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été condamné plus tard, en 50, à l'indignité nationale et à la confiscation de la moitié de ses biens. C'est ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc, Moranda, évidemment, Céline, c'est pas sa tasse de thé. Je sais même pas s'il est. Il l'a sans doute lu, d'ailleurs. Mais il y a le respect de la chose écrite, le respect de l'autre. On va pas jeter, on va pas mettre à la poubelle, on va pas brûler des manuscrits, des lettres qui appartiennent à une personne, quelle qu'elle soit. Et Moranda a ce geste magnifique de tout rassembler, de tout garder. Voilà. Et ça,
il cherche à contacter Louis-Ferdinand Céline.
Alors, il va, à son retour en France, il va lui dire, écoutez, voilà, les meubles sont au garde-meuble. Il faudrait quand même payer la facture du garde-meuble, c'est normal. Et puis, il y a des documents. Il lui propose de restituer tout ça. Céline refuse. pas question de payer, dit et écrit-il à son avocat Titkevi en cours. Pas question de. Et puis, de toute façon, tout ça, c'est des brouillons, c'est de la foutaise et tout ça. Et donc, il supporte pas, en fait, qu'un résistant, qu'un épurateur, comme il dit, effectivement, à longueur de page. Jamais il écrit le mot résistant à propos de ces gens. Jamais. Comment un résistant ait pu garder ça, ait pu le respecter d'une certaine façon.
C'est fondamental ce que vous racontez là, Jean-Pierre Thibaudat, parce que ça signifie que ce qu'on appelle depuis 70 ans les manuscrits volés n'ont jamais été volés. Ils ont été non seulement conservés, et il a été proposé à Louis-Ferdinand Céline de les lui rendre. Et c'est Céline qui refuse. Et vous vous dites, au fond, Céline avait besoin de rester dans ce rôle d'homme dépossédé et de victime.
De victime, il a une position victimaire tout le temps. On vient de l'entendre, là, hein, on vient de l'entendre. Il a une position victimaire absolue, et donc tout le temps. Donc c'est vrai que on peut comprendre qu'on ait parlé de vol. On peut comprendre, parce que peut-être que cet appartement, entre le moment où Céline le quitte le 17 juin 1944 et le moment où Moranda arrive quelques mois plus tard, pas tout de suite, il se peut que cet appartement ait été visité. C'est ce qu'ont pensé les héritiers de Céline en parlant de Oscar Rosenblit.
On va y revenir, parce qu'il y a quand même des mystères qui demeurent, et oui, que par ailleurs, nombre de personnes vous ont accusé de mentir, Jean-Pierre Thibaudat, et de masquer, d'oblitérer une partie de l'histoire. Mais d'abord, donc, Yvon Moranda se retrouve avec cette caisse. Céline refuse de la récupérer, il faut bien la garder, et voici que cette caisse descend tranquillement à la cave, que Yvon Moranda va décéder dans les années, il va mourir dans les années 70, c'est ça ?
72, oui.
En 1972, et que ses filles se retrouvent avec la caisse. Et puis l'oublient. Et puis un jour, l'une d'entre elles tombe enceinte, elle descend à la cave, elle cherche un berceau pour le futur enfant, et elle tombe sur la caisse.
Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est comme ça qu'on m'a raconté l'histoire, et j'y crois totalement.
Totalement. Ouais. Elle ne sait pas quoi faire avec cette caisse.
Elles sont bien ennuyées. Elle est bien ennuyée, Caroline Moranda, quand elle a cette caisse. Et donc, elle en discute avec Georges, son mari et tout. Et puis un jour, elles invitent un de leurs amis, Gilles Cartman, et lui, il parle de ça. Et c'est à ce moment-là que Gilles, qui est aussi un ami au couple que je forme avec Véronique Soulet, on était tous les deux journalistes à Libération à l'époque, Gilles pense, mais la solution c'est Jean-Pierre. Et voilà, c'est comme ça que la chose se
fait. Mais Jean-Pierre, qui est une grande signature, critique dramatique, je l'ai dit, à Libération, Jean-Pierre qui n'est pas un célinien.
Non, pas du tout, pas un sénien, mais un journaliste, donc quelqu'un qui peut quand même voir les choses et tout ça. Et puis un amateur de littérature, ça il le savait aussi. On avait beaucoup discuté de ça avec Gilles lors de dîner.
Vous voici donc, voilà, tous les cinq dans le secret. Voilà. La fille d'Yvon Moranda, son époux, Gilles Cartman qui a fait l'intermédiaire, vous et votre épouse. Et vous voici tous les cinq dans le secret.
Et on est dans le secret. Et c'est un club des cinq qui a gardé le secret pendant des dizaines d'années. Moi, je trouve ça très beau.
C'est très beau, c'est très mystérieux, c'est très fascinant. Et vous allez voir dans la suite du MAC de la matinale que des mystères demeurent et qu'il y a des manuscrits dont on cherche encore la trace.
Je veux me marier avec le vent, je prends le soleil comme mon amant. Avec les nuages, je danse le French cancan. Mais le vendredi, le tango samba. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé, elle n'existe plus. La vie, aujourd'hui, elle est plus importante. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité. Embrasse le passé, il n'existe plus. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité.
Arnaud, la vérité, album posthume.
France Inter, le 7-9-30, le mag de la matinale.
Sonia De Villers, 9h20, vous poursuivez cet entretien passionnant avec Jean-Pierre Thibaudat.
Jean-Pierre Thibaudat qui donc a passé 40 ans dans le secret absolu, face à face avec cette caisse. Cette caisse qui contenait les manuscrits disparus et non plus volés, puisqu'on sait que Céline a refusé de les récupérer. Ces manuscrits...
Et que surtout, Miranda les a pas volés, il les a préservés.
Il les a préservés. Travail que vous avez poursuivi, mais vous avez été au-delà simplement de la préservation. Vous avez trié, vous avez classé, vous avez décrypté cette écriture parfois si difficile à lire.
Ah oui, c'est extrêmement difficile. Il faut s'y plonger, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on rentre dans le manuscrit, il y a un moment d'attente. Vous voyez, il faut s'enfoncer dedans, respirer l'écriture. Il y a une respiration très particulière de son écriture. Il faut être dedans. Et là, ça devient... C'est toujours difficile de décrypter parce qu'il écrit beaucoup d'abréviations. La ponctuation est totalement fantaisiste et tout ça. Et puis, il écrit assez vite parfois. Il raye encore. C'est un travailleur acharné. On voit l'homme au travail.
Louis-Ferdinand Céline, parlant du style.
Ce que l'on fait, ce sont des romans inutiles. Parce que ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens ne sont pas travailleurs. Et ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie.
Pourquoi les ayants droit de Céline? Céline n'a pas eu d'enfant. Céline a fini la...
Si, il y a une fille.
Il y a une fille.
Il y a une fille qui a pas voulu de l'héritage, voilà, à sa mort, voilà, à cause des dettes qu'il y avait. Voilà.
Donc il y a deux ayants droit, un avocat et une ancienne élève du cours de danse, oui, de l'épouse de Céline, deux ayants droit qui ont porté plainte contre, oui, vous, Jean-Pierre Thibaudat. Pourquoi?
Ils ont porté plainte pour recel, ce qui est quand même assez surréaliste, puisque je suis...
Précisez, vous qui avez été aussi chroniqueur judiciaire, oui, à Libération,
oui, absolument, oui,
précisez ce que c'est que le recel.
Le recel, c'est le vol. Le recel, c'est tout simplement le vol. Donc, je suis un voleur, et mon avocat, Maître Pirat, est mon complice, puisqu'il était lui aussi inculpé. Et donc, recel. Or, cette plainte de recel intervient quelques mois après la convocation de ces deux héritiers dans le bureau de Maître Pirat, qui à l'époque d'ailleurs pensait qu'il n'y avait qu'un héritier, qui était Maître Gibault. Madame Chauvin est une héritière tardive, du côté de Lucette Destouches.
Lucette Destouches était la femme de Céline.
La femme de Céline. Ouais. On se retrouve donc dans le bureau de Maître Pirat avec les deux héritiers, et moi je leur dis voilà, j'ai tout ça. Et je leur montre une liste de tout l'inventaire.
Mais eux disent, vous montrez cette liste,
oui,
mais vous refusez de leur donner les manuscrits. Vous refusez de leur donner.
Oui, absolument. Je refuse de leur donner. Pourquoi? Je leur dis, écoutez, voilà, je n'ai aucun droit sur ces manuscrits, on est bien d'accord, mais moi je pense que, compte tenu de l'intérêt de ces manuscrits, de l'importance des inédits qu'il y a dedans, et il savait pas tout, parce que Guerre, par exemple, qui est le premier à être sorti, personne ne savait que ce texte existait.
Il a été publié chez Gallimard et c'est un immense succès de librairie.
Absolument. Et on savait que pour la volonté du roi Kogol, on savait ça, qu'il y avait casse-pipe, on savait. Mais Londres,
qui va paraître chez Gallimard,
on ne savait pas, ça va apparaître dans un mois, on ne savait pas, guerre non plus. Et moi je leur dis, voilà, ce qui serait extraordinaire, c'est que tout ce trésor, pas seulement les manuscrits, mais tout l'ensemble, aille dans un fonds public.
Parce qu'il y a la correspondance avec Brasillach, parce qu'il y a des lettres d'admiratrices énamourées.
Oui, et d'amoureuses aussi.
Absolument.
Oui, oui. Ouais. Et donc, tout ça aille dans un fonds public, soit la Bibliothèque nationale de France, à Paris, soit l'IMEC, l'Histoire des mémoires contemporaines, à l'abbaye d'Ardennes, du côté de Caen. C'est là, les deux endroits où il y a un fonds Céline.
Que ce soit accessible aux chercheurs, aux étudiants du monde entier. Eux disent, c'est faux, cet homme ment. Il n'a pas voulu lâcher les manuscrits parce qu'il a voulu, jusqu'au bout, jouer un rôle de premier ordre dans leur publication.
Et c'est faux, c'est faux. Alors, simplement, dans cette réunion, unique fois d'ailleurs où je les ai vus, les ayants droit. À un moment, Maître Gibault me prend à part et me dit, écoutez, c'est extraordinaire ce que vous racontez, je téléphone demain à Gallimard et on va, comme vous avez décrypté tout ça,
c'est l'éditeur historique, Gallimard.
Et puis, rien du tout de tout ça, il se passe rien, et quelques mois plus tard, c'est le recel, l'accusation de recel.
Alors, vous êtes convoqué à la police, mais vous racontez quand même un moment assez édifiant, où voilà tout un tas de policiers en train de dépiauter cette caisse pleine d'archives de Céline, ne sachant absolument pas quoi en faire, comment faire, et de quoi il s'agissait.
Oui, alors simplement, tout est classé. Moi, j'ai tout classé. Et ils n'arrivent pas devant un tas informe, ils arrivent devant des choses posées. Ça, vous voyez, c'est le manuscrit de Mort à Crédit, incomplet, mais quand même des pages extraordinaires à voir. Ça, c'est Guignol's Bande, et ça, c'est des trucs complètement inédits et tout ça. Ils comprennent rien. Ils comptent. Avec le doigt, ils comptent 957 pages. Et une fois qu'ils ont compté un tas, on met dans une enveloppe. Le policier, on signe, je signe, on scelle. Voilà. Et ça dure comme ça une heure et demie. Hein. Ils étaient cinq à compter comme ça tous ces
manuscrits. Jean-Pierre Thibaudat, on a fouillé vos emplois du temps, fouillé vos agendas, on a fouillé. La justice a fouillé et puis le dossier a été refermé, vous avez été blanchi. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de cette émission. C'est que cette caisse, elle contient aussi un dossier noir. Elle contient aussi un dossier juif.
Oui, alors cette caisse contient un dossier juif. Comme par hasard, ce dossier juif n'a pas été exposé dans l'exposition Gallimard qui a eu lieu en marge de guerre. Ils ont exposé des choses de la caisse, des documents, vous voyez, ou des photos, des choses comme ça, des lettres.
Ils n'ont pas mis le dossier juif,
mais en revanche, ils ont mis la médaille militaire de Céline qu'il n'avait plus le droit de porter depuis qu'il a été condamné à l'indignité nationale. Donc c'est un peu fort de café de voir des choses pareilles.
C'est un peu fort de café. Il y a aussi la préface de Guerre.
Oui, la préface de Gibault qui, évidemment, s'empresse de ne pas me citer. Bon, c'est ce qui m'a fait plutôt... Je trouve ça ridicule et risible, d'une certaine façon, et surtout idiot. Voilà.
Alors, qui ne vous cite pas, qui ne recontextualise pas l'antisémitisme historique de Céline et son antisémitisme à travers ses textes et ses écrits, qui sont pourtant sans embâge. Et par ailleurs, vous êtes assez critique de ce que donne finalement cette édition.
Oui, parce que il y a un manuscrit, qui est compliqué d'ailleurs. On ne sait pas si c'est un manuscrit ou deux manuscrits. Eux le présentent comme un manuscrit. Et ils enlèvent les trois premiers mots. Comment on ose enlever des mots d'un auteur national comme Céline? On enlève, ça commence par « pas tout à fait ». Et puis après commence l'histoire. S'il n'y a pas tout à fait, c'est qu'il y a des choses avant. Mais eux, ils enlèvent les mots. Pourquoi? Pour faire de Guerre une œuvre à part entière. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est faux, totalement faux. Et donc ça, c'est de la manipulation éditoriale. Vous voyez?
Alors, il reste des manuscrits manquants, il reste des feuillets manquants, il reste des pages manquantes, vous l'avez dit.
Je pense, oui.
Et au fond, il y a quelques semaines où on ne sait pas très bien qui est passé dans cet appartement de Céline. Et ça a déchaîné l'imagination depuis 70 ans. On a évoqué la piste d'Oscar Rosambly, très curieux personnage, moitié résistant, moitié collabo. Vous dites que vous, il reste des mystères. Il y a peut-être des choses qui ont été en effet.
Oui. Et d'ailleurs, tous les Céliniens qui ont travaillé sur la piste Rosambi, qui ont essayé de voir, cet homme a dit qu'il avait des choses de Céline. Sa fille a dit, oui, il y a des choses. Et puis après, elle a dit qu'il n'y avait rien. Est-ce qu'il n'y a rien, vraiment? Est-ce que c'est planqué quelque part? Est-ce que ça a été vendu discrètement à un collectionneur? On ne sait pas tout ça. Là, le manuscrit de guerre, il est bancal. Donc, il y a quelque chose. Alors, et je dis aux Céliniens, mais continuez à chercher, il y a d'autres choses.
La machine à fantasmes peut continuer à tourner. Voilà. Merci infiniment pour cette première interview accordée à France Inter, Jean-Pierre Thibaudat, et j'invite les auditeurs à vous lire régulièrement sur votre blog hébergé par Mediapart.
Merci à vous, Sonia De Villers.